Donc, bienvenue à cette deuxième partie du discours sur la conscience et l'attention. Donc on peut repartir avec ce point qui était fait dans cette tradition, l'Advaita, qui dit que l'attention est toujours présente. Notre attention est toujours présente et du coup, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, voir en méditation ou en tout cas, pressentir de plus en plus en méditation, où par exemple on a ces moments où on est distrait et puis ces moments où on est présent. Et en fait, quand on est distrait, c'est notre attention qui est quelque part et on n'en est pas conscient. Et puis quand on est conscient, c'est notre attention qui revient à un objet qu'on a choisi, par exemple la respiration. Et être conscient, c'est quand l'attention est aussi quelque part consciente d'elle-même. Vous voyez là où j'essaie de faire la différence entre être distrait et être conscient. Donc en fait, l'attention, elle est toujours là. Ce n'est pas qu'à un moment, il n'y a plus d'attention. Parce que l'attention, elle est toujours quelque part de ce point de vue. Elle est dans nos pensées et on ne le sait pas ou elle n'est pas consciente d'elle-même. Et puis elle revient à la respiration. Et à ce moment-là, il y a la respiration. Et on n'est pas seulement conscient de la respiration, mais on sait qu'on est conscient. Donc il y a une continuité au niveau de l'attention. Elle est toujours là. Et nous, on a l'impression de temps en temps, on est là, de temps en temps, on n'est pas là. C'est un peu ça notre expérience, on pourrait dire. Mais si on réfléchit à l'attention elle-même, on peut dire elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours dans le moment présent, elle n'est jamais partie, elle n'est jamais ailleurs. C'est juste que parfois, on en est conscient, et parfois, on n'en est pas conscient. C'est ça la différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître et comprendre de cette attention? C'est là que va commencer le discours, et puis après ça, il va de nouveau évoluer vers peut-être plus de complexité. Mais déjà, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut constater de cette attention? Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle est toujours là. Alors, on n'en sait rien, par contre, au niveau du sommeil. Là, c'est plus confus. Mais on peut, par exemple, pour le rêve, oui, on peut dire, pour le rêve, il y a une attention qui est là et qui est témoin du rêve, qui est en train de se vivre. Donc, pour le rêve, pour la distraction et pour la conscience, les trois, c'est l'attention est présente. Donc, elle semble être toujours là. Et puis aussi, elle va, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, qu'on remarque, et j'en parle souvent en méditation, l'attention va toujours aller vers là où il se passe quelque chose. Donc, s'il y a un gros bruit, tac, elle va aller là où il y a le gros bruit. S'il y a une douleur, tac, elle va aller là où il y a la douleur. S'il y a une pensée, pop, elle va aller là où il y a la pensée, surtout si la pensée a un lien avec une émotion. À ce moment-là, il se passe quelque chose à cet endroit-là, et du coup, c'est ça qui va absorber l'attention. C'est en général ça qui nous fait perdre l'état de conscience. Donc elle va où il se passe quelque chose, c'est son boulot, c'est comme ça que fonctionne, c'est comme ça qu'on est toujours vivant. Sinon, si elle n'avait pas fait ça, on serait fait écraser par un camion depuis longtemps ou bien déjà mangé par un tigre à l'époque. Et on n'aurait pas survécu en tant qu'espèce. Donc elle va là où il se passe quelque chose. C'est pareil avec ton chien dehors qui nous attend tous, là, avec sa petite pomme de pin et qui voudrait, qui attend qu'on jette la pomme de pain, quand il est à la pomme de pain, on la voit, cette attention. Ce n'est que pure 100% attention. Là, lui, je me demande quelle est l'expérience de l'intérieur, mais pour moi, je suis pratiquement sûr qu'il n'est pas conscient de lui en train d'attendre qu'on jette. Il y a juste une attention 100%, il y a quelque chose qui passe à travers ses yeux, à travers tout son être, et il n'y a pratiquement aucun... Il n'y a pratiquement aucun écart entre le moment où on jette la pomme de pain et le moment où il démarre. Il démarre en même temps qu'on jette la pomme de pain. Il n'y a pas une fraction de seconde. Et du coup, il la saisit tout de suite. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a aucune distraction. Zéro. Zéro distraction. Mais il n'y a même pas la conscience de lui-même en train d'attendre. Ça, c'est une attention complètement investie à son objet. Complètement investie à son objet. C'est l'attention qu'il cherche dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, pendant qu'ils pratiquent, du coup, ils sont conscients du mouvement. Pour apprendre un mouvement, il faut en être conscient. Donc ça, c'est encore quelque chose, c'est de rester bien ensemble. Donc, l'attention nous sert aussi à apprendre. Au fur et à mesure qu'on répète un mouvement avec suffisamment d'attention, on commence à le connaître, on commence à l'apprendre. C'est pareil pour apprendre un texte, c'est pareil pour apprendre n'importe quoi. Il faut mettre notre attention dessus. Si notre attention n'est pas sur quelque chose, on n'apprend pas cette chose. On ne peut pas la connaître. Notre attention va nous servir à connaître, va nous servir à apprendre. Et dans les arts martiaux, donc on répète un mouvement consciemment, sans être distrait, en étant présent et tout ça. Mais je lis un bouquin d'un maître zen qui écrivait à un samouraï et qui disait au samouraï, quand vous êtes dans un combat, il n'y a pas place pour être conscient. Il faut qu'il n'y ait que l'attention. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une attention périphérique. Si à un moment il est conscient de l'épée de l'autre, du coup il ne voit pas tout le reste. Il faut qu'il y ait une attention périphérique et à ce moment-là, dès qu'il y a un mouvement, il y a le contre-mouvement, comme le chien. Et donc ça, vraiment, on voit cette attention qui est différente de la conscience. Cette attention qui est, elle est juste là, elle est simplement là et elle est tout le temps là. Donc, elle va où, elle se où il se passe quelque chose, elle détermine comment on se sent. C'est-à-dire, si l'attention va sur une rivière, eh ben, ça a un impact sur comment on se sent. Si l'attention va sur une pensée complexe, eh ben, ça va déterminer comment on se sent. Si dans n'importe quelle scène, si l'attention est coincée dans des murs avec beaucoup de verticales, il y a eu beaucoup d'études sur le fait de vivre en ville, là, c'est pas conscient, mais l'attention, elle est toujours avec des verticales, des horizontales, des traits un peu qu'on ne trouve pas dans la nature, ça a un impact sur comment on se sent. Le feng shui étudie, du coup, quel est le cadre dans lequel l'esprit va pouvoir se poser, parce que l'attention est dans un cadre. C'est pas qu'on se dit c'est beau ici et tout ça, mais non, c'est simplement ces formes-là, ces formes-là vont faire qu'on va se sentir d'une certaine manière. Là où se trouve notre attention, ça va déterminer comment on se sent. Suivant ce qu'on fait rentrer dans ce regard constant, en fait, ça détermine un peu le monde dans lequel on vit. Et parfois, il suffit de porter notre attention ailleurs et automatiquement, notre vécu change. C'est ce qu'on disait avec la méditation marché, où, par exemple, on est envahi par une émotion qui est difficile, c'est pas le moment. À ce moment-là, si on amène notre attention dans la sensation des pieds et des jambes, c'est comme l'attention n'est plus sur l'émotion, et ben, bientôt, on ne va plus sentir l'émotion. Et pour sentir l'émotion, il faut qu'elle soit dans notre champ de conscience, dans notre champ d'attention. Si elle n'est plus dans notre champ d'attention, on ne sent plus l'émotion. L'attention nourrit. Donc, si on reste dans des pensées, si en fait, je vais le prendre dans l'autre sens, si on a une histoire qui tourne en rond et qui tourne en rond et qui tourne en rond, c'est parce qu'elle a réussi à capturer notre attention. Si on réussit à reprendre l'attention et à la mettre ailleurs, cette histoire ne peut pas continuer à tourner en rond. Elle a besoin de notre attention pour continuer. Donc l'attention a un côté où elle nourrit quelque chose, comme l'attention nourrit les plantes aussi. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, sur le fait d'être attentionné, de parler à une plante et d'être présent à une plante, ça lui permet de grandir. Ou comme ces recherches où il y avait, je crois que c'était des lapins qui étaient nourris de façon industrielle sur des hauteurs pas possibles, mais il y avait un homme qui passait pour appuyer sur les boutons, et du coup il y avait les lapins qui étaient à hauteur de son regard, et bien ceux-là, c'était ceux qui étaient beaucoup moins malades que les autres. Et ils ont fini par en déduire qu'en fait, c'était les lapins avec qui il avait une relation. Et ceux-là en haut, qui ne voyaient jamais personne avec qui, et bien ils ne recevaient aucune attention. Et du coup, ils avaient développé plus de maladies, ils étaient plus fragiles. Donc là, l'attention nourrit, l'attention équilibre. C'est parce que l'attention a un impact sur la santé que la méditation est arrivée en Europe, à travers le monde médical, le MBSR et toutes les recherches qui ont été faites sur comment le fait de porter, on ne comprend même pas pourquoi, mais le fait de porter son attention à sa respiration va avoir un impact bénéfique sur une grande quantité de maladies et de problèmes psychologiques. On ne sait pas trop pourquoi, mais comme des maladies comme le déséquilibre alimentaire, par exemple. Hein, et tout ce qui est stress et tout ce qui est... Donc, encore une fois, c'est l'attention qui est au cœur de ce, de ce processus. C'est l'attention qui est centrale dans à travers la méditation dans les hôpitaux et tout ça. C'est l'attention, c'est la pratique de l'attention qui va permettre la guérison. Donc l'attention dans tous ces cas-là, c'est elle le héros de l'histoire. C'est elle qui est au cœur, c'est elle qui est au centre, c'est l'attention. Alors à chaque fois, partout où on regarde, en fait, l'attention est peut-être la donnée la plus importante de notre existence. Le sujet de notre existence. Et non pas, comme on va le croire intuitivement, le corps, par exemple. Le corps est perçu par l'attention. Alors, cette attention, elle a aussi... Elle se mélange d'une couleur, elle a des couleurs en fait cette attention. Il peut y avoir une attention bienveillante. C'est-à-dire que quand on a une attitude bienveillante, ça se mélange à notre attention. Il peut y avoir une attention suspicieuse. Du coup, on est super attentif, mais parce que là, on soupçonne qu'il se passe un truc là. C'est pas la même attention. Elle prend des couleurs en fonction de notre intention. En fonction de nos schémas, de nos tournures d'esprit, l'attention a une couleur. L'attention d'un sniper, c'est une attention qui a une couleur. L'attention de quelqu'un qui est en train de cambrioler une maison, ah, il est super attentif, mais il y a une couleur dans son attention. Tout ça, c'est déjà toutes des petites recherches qu'on peut faire. Sortir, tiens, quelle est la couleur de mon attention en ce moment? Ok, il y a conscience, ok. Il y a conscience, c'est-à-dire le moment où on est conscient, c'est le seul moment où on peut faire l'expérience de la présence de l'attention. Sinon, on est distrait. On est distrait, on est distrait, on est distrait. Et puis à un moment, hop, on remarque qu'on était distrait. On revient à un moment de conscience. C'est à ce moment-là qu'on fait l'expérience d'être attentif. On fait l'expérience d'être attentif. On inspire et on sait qu'on inspire. On expire et on sait qu'on expire. On est en train de faire l'expérience de la présence de cette attention dans ce moment. Elle va aller donc là où il se passe quelque chose. Elle va aller aussi en fonction de ce qui nous intéresse. Quels sont nos intérêts ? Il y avait un exemple dans un livre de, je crois que c'est Daniel Goleman, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Il prend cet exemple de 4-5 personnes qui rentrent dans une pièce et puis qui voient, en fait, chacun va rentrer et voir en fonction de son centre d'intérêt. Par exemple, s'il y a une guitare dans un coin, eh ben celui qui est musicien, c'est la première chose qu'il va voir. Si celui qui est plutôt porté sur la lecture va voir la bibliothèque et un petit peu ce que la personne qui habite là lit et tout ça. Si quelqu'un a peur des araignées, la première chose qu'il va voir, c'est l'étoile d'araignée. Peut-être quelqu'un qui a un enfant va voir trois jouets dans le coin. Et en fait, chacun va avoir une expérience différente de la pièce, en fait. Parce que l'attention ne va pas se porter au même endroit. Et là où elle va se porter, ça va de nouveau déterminer notre expérience. Ce qu'on ressent de cette pièce, hein, la personne qui a peur des araignées ou la personne qui voit les petits jouets, ne va pas ressortir la même chose. Donc, en fonction de nos fonctionnements, de nos intérêts, ça va diriger cette attention. Et du coup, on va naviguer et percevoir le monde et créer nos expériences en fonction de ce qui est important pour nous. Important, c'est-à-dire ce qu'on aime ou ce qui nous fait peur. C'est ça qui va créer ce qu'on voit dans le monde et qui va créer ce qu'on ne voit pas dans le monde. J'ai croisé des gens qui ont été en Inde et qui n'ont jamais vu de pauvreté, par exemple. Jamais. J'ai trouvé ça très difficile de ne pas voir de pauvreté en Inde, parce qu'il y en a vraiment partout. Mais voilà, en fonction de là où on ouvre, là où on ferme, nos intérêts, nos peurs, eh ben, on ne fait pas l'expérience du même monde, en fait. Et l'expérience du monde qu'on fait dépend de où se porte notre attention. Donc de nouveau, c'est cette attention, toujours encore, c'est elle qui détermine notre expérience. Là où on la met, c'est avec elle qu'on apprend, c'est avec elle qu'on rentre en lien, c'est avec elle qu'on est en contact. Je lisais aussi que les TDAHA, les troubles de déficit d'attention, les gens qui ont des troubles de déficit d'attention, ont peu d'amis. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de rester suffisamment longtemps attentif à quelqu'un pour rentrer en contact. Il faut porter attention. L'attention, c'est aussi comme ça qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on lui prête attention. D'ailleurs, on dit on est attentionné. Donc aimer, c'est être attentif, prendre soin. Donc cette attention, elle est centrale. Elle est centrale, elle est centrale dans notre expérience. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Elle détermine tout. Et on la connaît peu. On connaît les objets qu'elle perçoit. On ne la connaît pas, elle. C'est elle qui perçoit. Pourtant, c'est tout le temps d'elle qu'on parle quand on dit « je ». Et on manie le « je » avec une grande légèreté, alors qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça qui est fascinant. Fascinant et aussi arrogant, quelque part, de cette manière de marcher dans la vie comme si on savait de quoi il s'agissait. Et donc là, maintenant, on est en train d'amener, comme on le disait tout à l'heure avec ta question, on est en train d'amener dans la pleine conscience la conscience de l'attention. C'est-à-dire qu'on retourne l'attention sur elle-même. C'est-à-dire que l'attention qui est le sujet devient l'objet. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que ça ne s'observe pas comme on observe la respiration, comme on observe un son, comme on observe une émotion. Parce que ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation physique, ce n'est pas une pensée. C'est rien de tout ça. C'est rien de ce qui est observable, l'attention. Et dans l'Advaita, de nouveau, c'est rien, il sera dit, c'est rien de ce qui a début, une durée et une fin. Ce n'est rien de ce qui va et qui vient. Ça ne va pas, ça ne vient pas. Et ça ne s'observe pas comme on observe les objets de l'attention. C'est dans toute expérience, elle est là, parce que si elle n'est pas là, il n'y a pas d'expérience. On fait l'expérience au moment où il y a une attention portée. Et pourtant, elle n'est pas elle-même visible, expérimentable, expérientiable, je ne sais pas si c'est français, et perceptible. Mais, et peut-être vous en avez fait l'expérience dans la méditation, quand elle est là, l'attention, on le sait. On a cette impression « je suis présent ». De nouveau, ce jeu qui vient s'imposer quelque part sans qu'on sache trop d'où il arrive. Donc, il y a la sensation « je suis présent ». Ça veut dire « l'attention est là en ce moment ». Elle se connaît elle-même. Elle fait partie, elle est à la fois objet et sujet. Alors que d'habitude, elle n'est que sujet, elle n'est jamais objet. C'est-à-dire que, intuitivement, l'attention est toujours à l'extérieur, en train de gérer la vie, en train de penser à ce que je vais faire. Dès qu'elle est absorbée dans quelque chose, elle ne se connaît plus elle-même, en fait, l'attention. Et nous, ce qu'on fait dans cette retraite d'un jour, et moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique de la méditation, comme je le disais, c'est de conscientiser la présence de cette attention dans le moment, de devenir de plus en plus au fait et connaisseur de l'attention quand elle est là. Donc, je pratique l'attention consciente, je cherche l'attention consciente. Quand je me concentre sur ma respiration, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour connaître ma respiration, c'est pour dégager mon attention de la distraction de manière à ce qu'elle soit présente et qu'elle puisse se connaître elle-même, qu'elle puisse être là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais personne n'a jamais dit que ce serait simple. Parfois, on entend dire que la spiritualité, ça devrait être simple. Ça devrait être tout simple, en fait. Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense qu'il peut y avoir des credos assez simples, comme le moment présent, par exemple. Voilà, ça tient en deux mots, et ça dit bien ce que ça veut dire. Et du coup, c'est très utile, parce que c'est facilement assimilable, et ça peut permettre de déconnecter, de revenir. Mais très vite, en fait, c'est bloquant aussi autant de simplicité. Ça ne permet pas d'aller dans la subtilité. Et à un moment, le moment présent, ça devient une fermeture plus qu'une ouverture. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas ou cette complexité et cette magnifique subtilité qu'on trouve dans toutes les grandes traditions spirituelles. Donc il faut accepter aussi une certaine complexité pour pouvoir aller vraiment dans le détail et la finesse. Donc je vais proposer un pas de plus dans l'exploration. Et de nouveau, voilà, s'il y a des moments où ça vous paraît confus, où vous perdez tout ça, ce n'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. Je lisais un bouquin d'un mathématicien qui disait à un mathématicien, quand il va à une conférence de mathématiques, il se prépare à ne rien comprendre du tout. C'est les 2 premières minutes, il arrive à suivre et après il est perdu. Voilà. Et ça fait partie de l'apprentissage. C'est d'oser se perdre et d'oser aller dans les endroits où on sait qu'on ne va pas comprendre, mais ça sème, ça prépare au terrain. Donc là, s'il y a des moments où voilà, ça vous échappe complètement et tout ça, ne construisez pas de frustration et restez-en dans la pratique à cette conscience de l'attention, par exemple, si c'est ça qui vous parle, ou sinon, juste à la conscience de la respiration. Donc quand on est, on en a parlé aussi aujourd'hui dans les retours notamment, on va avoir des moments où quand l'esprit se pose, il va y avoir une voix dans la tête qui va dire je suis conscient, je suis présent, ou c'est agréable d'être conscient, c'est agréable d'être présent. Et en fait, cette voix, ces paroles sont aussi perçues par l'attention. Hein, c'est pas. Mais la grande difficulté, c'est que on a intuitivement la sensation, on donne du crédit à cette voix, comme si c'était moi qui parle. Il va y avoir tout un tas de pensées, de distractions et tout. On a l'impression que c'est notre esprit qui fait n'importe quoi. Mais quand on dit ah là je suis conscient, ou bien quand on dit ah ben quand même je suis pas très conscient, il faudrait que je sois plus conscient, et qu'on commence un peu à se critiquer ou à se juger, ou quand on se dit bah là j'étais distrait, maintenant il faut que je revienne à la à... Toutes ces voix-là, on leur donne une valeur différente. C'est pas des distractions, c'est moi qui parle, c'est moi qui pense. Et c'est moi qui pense en fait donne une grande autorité à ces voix, et aussi matérialise une sensation d'exister, matérialise le jeu. Le jeu, à ce moment-là, c'est celui qui pense. Et ça, dans notre chemin, dans notre manière de méditer, dans notre recherche, c'est quelque chose qui peut changer. Et c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il change, en fait. C'est un moment de cesser de s'approprier les choses qui se passent et de dire c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi qui. Je pense qu'au niveau de l'individu, on en est toujours à la même époque que quand il y avait le géocentrisme. C'est-à-dire quand on pensait que la Terre était au centre et que tout tournait autour. Et on avait cette certitude. Et quand on regardait, c'était bien ce qui se passait. Le soleil se lève là, il se couche là, donc il tourne autour de la Terre comme ça. Et puis la voûte céleste fait plus ou moins pareil, elle tourne autour de la Terre. Donc l'univers tourne autour de nous. Hein, en gros. Ça a été très difficile de lâcher ça. Je veux dire, l'Église, elle en a coupé des têtes aux gens qui disaient ça. Hein? Et ça a été très dur de le lâcher. Et maintenant, ce qu'on a la difficulté de lâcher, c'est ce moi central de toute l'expérience. C'est-à-dire que dès qu'il y a une expérience, on matérialise le fait qu'il y a un jeu qui est le sujet de cette expérience. Automatiquement, on induit, en fait, un sujet, une identité, un expérienceur. Ah, je vais essayer de débobiner un peu ça. Donc, comme je le dis souvent, dans des moments de méditation où il y a peu d'activité, il peut y avoir des moments où une pensée émerge et on a la sensation, une pensée émerge. Et on n'a plus la sensation « je pense ». La sensation « je pense », elle est là pour moi au début de la méditation, quand je m'assois, et puis je suis dans mes pensées, tout ça, et puis à un moment, je me rends compte que j'étais en train de penser et que j'étais perdu dans mes pensées. Ça, c'est ce qui se passe au début. Si la méditation m'entraîne à plus de profondeur, si à un moment, il y a une espèce de lâcher-prise sur toutes les histoires et toutes les constructions, il va y avoir des moments où il y a beaucoup plus de silence. Et dans ce silence, il va y avoir des pensées qui émergent, mais il n'y a plus la sensation « je pense ». Et il n'y a plus, j'ai bien dit la sensation, ce n'est pas simplement la phrase « je suis en train de penser » qui se dit avec des mots, mais il peut y avoir la sensation « je pense ». Et là, cette sensation disparaît. Et du coup, les pensées sont vues comme tout le reste, comme des choses qui vont et qui viennent. Là, il y a une grande sensation de liberté. Il y a beaucoup moins d'ego dans ce moment-là. Il y a beaucoup moins d'ego, il y a beaucoup moins d'individualité. Ça, cette perception de la pensée comme étant ni moi ni à moi, comme on dit dans une approche de méditation bouddhiste, on voit les choses comme étant ni moi ni à moi. Elles sont simplement vues par la conscience. Donc cette perception, elle est induite par une compréhension. De la même manière que j'ai la sensation « je pense », c'est parce qu'on on s'identifie à... On s'identifie à notre corps, à une individualité. En fait, on est... Je vais trouver une autre manière d'approcher ça. Parce que... Donc pour revenir à ce que je disais au début, en fait, l'ignorance de notre nature crée cette illusion qu'on est des individus séparés, qu'on n'a aucun terrain commun, qu'on est tous séparés les uns des autres et qu'on a du coup une individualité. Je ne vais pas y arriver. Attendez, j'arrive. C'est pas facile parfois, hein. C'est un sacré exercice, hein. Ok, je vais le prendre autrement. Je vais vous raconter une blague que j'aime bien, que je raconte de temps en temps dans les discours, et qui est en fait un bon point de départ pour aller là où j'ai envie d'aller. Donc c'est l'histoire d'un fou dans un asile, et c'est une histoire de quand j'étais petit. Donc, ouais. Et donc, il se prend pour une poule. Et... Non, excusez-moi, il se prend pour un verre. Il se prend pour un verre. Attention, c'est pas pareil. Et du coup, voilà, c'est pas très fonctionnel, il peut pas sortir, hein, il peut pas fonctionner en société. Et tous les ans, il y a un conseil, et au conseil, on lui dit bonjour, monsieur, alors, qui êtes-vous et tout ça. Il dit, ben, moi, je suis un ver de terre. Ok, restera encore un peu avec nous. Et d'année en année, ça se passe comme ça. Et puis, quand même, il y a des gens qui lui expliquent, qui essayent de l'aider et tout ça. Et à un moment, bon, ben voilà, il se rend compte quand même que bon, il n'est pas ver de terre, en fait, il est un homme. Et donc, quand il passe devant le conseil, il dit, ben oui, je suis un homme, hein, je ne suis pas ver de terre. Et le conseil, ils sont très contents, ils font, ben ok, super, vous allez pouvoir sortir et tout. Il fait sa petite valise et puis il est accompagné avec un soignant. Et quand il arrive à la barrière, là, il y a justement les poules qui sont là en liberté. Et puis alors, subitement, il a un mouvement de recul, il voit les poules, il dit au soignant, « Ok, donc moi, je ne suis pas ver de terre, maintenant je le sais, mais est-ce que les poules le savent ?» Et donc ça, en fait, ça parle de d'où vient ce que c'est l'ignorance. L'ignorance de sa propre identité génère une croyance, et cette croyance génère des peurs, et ces peurs génèrent des problèmes. Et c'est ça, je pense, que nous disent tous les grands enseignements spirituels, c'est qu'on n'est pas ce qu'on croit qu'on est et qu'on ne voit pas ce qu'on est vraiment. Et ça, ça ne se soigne pas juste par une pleine conscience de l'enfant, comme je l'avais appelé dans le dernier discours, où on est juste conscient des cinq sens. Par exemple, à cette personne atteinte de folie qui croit qu'elle est un ver de terre, si quand les poules approchent, on lui dit « sois conscient de tes émotions, apprends à respirer profondément », là, voilà, si c'est tout ce qui est, revient aux cinq sens et au moment présent, ça ne va pas l'aider énormément. Parce qu'il y a un bug, il y a un problème dans la compréhension au départ. Et tant que cette compréhension-là n'est pas changée, gérer les émotions qui découlent de ce malentendu ne va pas solutionner le malentendu. Revenir à la paix de l'esprit, parce qu'on arrive à se concentrer sur sa respiration, et que du coup, le monde ne se produit plus, que tout est calme, que tout est paisible, que tout est tranquille, ça ne solutionne pas le problème. Ça sera une compréhension qui va solutionner le problème. Ça va être touché à cet endroit où il y a un malentendu. Du coup, dans dans ces traditions où on conseille de se poser la question « Qui suis-je ? » Mais qui voit ces pensées ? Mais qui est conscient ? Je suis conscient. Ok ? Qui ? Qui ? C'est ma conscience. Qui est le propriétaire de la conscience ? Hein ? Est-ce qu'on peut répondre à ça ? On n'en est pas capable. Du coup, le « je » est une croyance. C'est ça qui est difficile pour nous. Surtout dans notre esprit cartésien, qui découle justement du « je pense, donc je suis ». Dans notre esprit cartésien, d'imaginer qu'il pourrait y avoir une conscience sans qu'il y ait un « je » qui soit propriétaire de la conscience, voilà, ça on a du boulot, là. Et pourtant, on peut jouer avec en méditation, c'est ça que j'essaye de transmettre. On peut, en méditation, voir la conscience comme, ou l'attention, je vais garder l'attention, voir l'attention comme étant une présence qui ne m'appartient pas, elle est là. Elle est là en ce moment. C'est ça que j'essayais aussi de dire tout à l'heure. Donc, dans le moment où je ne suis plus distrait, je suis dans un état de non-distraction, il y a une sensation de présence et je peux l'interpréter non plus comme ma présence ou comme je suis conscient, mais comme la présence. Elle est là. Ce n'est pas ma présence. Ça, c'est un pas plus loin. C'est en fait une désidentification. Donc, dans un des livres de Rumi, le Makalat, vous devez vous astreindre à savoir qui suis-je, dans quelle substance suis-je fait, pourquoi suis-je venu à l'existence, quelle est ma racine, en cet instant que suis-je en train de faire. Je pense pour pratiquer la recherche spirituelle, il faut avoir suffisamment d'humilité pour comprendre qu'on ne sait pas, pour comprendre qu'on ne sait pas et qu'on a tout un tas d'idées et que ces idées fonctionnent plus ou moins, mais que c'est aussi ces idées qui nous ont menés là où on en est, en bien comme en mal. Nos idées ne sont jamais que des schémas de fonctionnement pour fonctionner dans un monde qu'on ne comprend pas. Et là, il y en a qui fonctionnent bien et d'autres qui ne fonctionnent pas bien. Donc il faut suffisamment d'humilité pour savoir qu'on ne sait pas et du coup être à même de remettre en question nos certitudes. Et ça, ça se fait aussi dans la méditation. Méditer avec des certitudes, pour moi, ce n'est pas fructueux. C'est méditer avec des questions. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez ressortir de ce discours avec plus de questions qu'avec de réponses. Alors, ça aurait été fructueux. Si vous sortez avec des réponses, ce n'est pas très intéressant, ça ferme. Il n'y a pas de recherche quand on a des réponses. Quelqu'un qui sait tout ne cherche rien. On ne cherche que quand on sait qu'on ne sait pas. Et donc, vraiment, il y a cette dynamique de recherche qui va permettre de découvrir. Mais se poser les questions, c'est super dur. Se poser des bonnes questions, c'est super dur. Confucius qui disait « Je ne cherche pas les réponses à mes questions, je cherche à comprendre mes questions. » Mais oui. Qui suis-je ? Simplement la question « Qui suis-je ?» Comment réussir à se poser une question pareille ? Mais la majorité d'entre nous va se dire « Je sais bien qui je suis quand même. Ça fait 30 ans, 50 ans que je suis avec moi-même. Je sais qui je suis, je me connais. » Intuitivement, on peut avoir ça comme réponse. Et bien, c'est ça qu'il va falloir peu à peu remettre en question. Mais ça ne se fait pas sur une semaine. Et ça, c'est tout un aspect philosophique. C'est toute une réflexion à mener. Ce n'est pas juste dans le silence de la méditation que cela va se répondre. Le silence de la méditation va nous amener des indices sur qui on est. Mais d'abord, il faut avoir une curiosité et une ouverture. Si on n'a pas de curiosité et pas d'ouverture, on ne va rien apprendre. Il y a une histoire dans l'hindouisme qui raconte ça. C'est un sadhu qui est avec son disciple. Et donc un sadhu, c'est un homme spirituel, donc très versé dans la méditation. Il arrive au bord du Gange. Il dit à son disciple, j'ai soif, va me chercher de l'eau. Puis là, il rentre en méditation et il reste 120 ans en méditation, comme ils font dans les histoires de l'hindouisme. Enfin, il reste très longtemps en méditation. Et puis quand il ouvre les yeux, il regarde autour de lui et il dit « Où est mon verre d'eau ?» Parce que rien n'a changé. Rien n'a changé, il est simplement rentré dans un moment de paix de l'esprit. Mais si on ne change pas, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a besoin d'une compréhension pour qu'il y ait une transformation. Si on revient à l'histoire de cet homme qui se prend pour un verre de terre, il n'y aura eu une transformation que au moment où il réalise qu'il n'est pas ce qu'il croyait qu'il était. À ce moment-là, les problèmes disparaissent. Donc, comme on en discutait aussi tout à l'heure dans les questions-réponses, la manière dont on regarde et dont on perçoit quelque chose dépend aussi du concept. Donc, si on regarde une chose en sachant qu'elle est impermanente, on la vit différemment de si on croit qu'elle est permanente. En général, c'était le thème de la dernière fois, si on croit que quelque chose est permanent, on y fait moins attention, on en profite moins. Si c'est quelque chose de déplaisant et qu'on croit que c'est permanent, on en souffre plus. Alors que si on sait que ça va s'arrêter, on en souffre moins. Donc là, le fait de voir la permanence d'une chose permet de changer la relation à cette chose. Et bien ici, donc on voit que, comme on le disait avec Thich Nhat Hanh, qui dans un arbre voit l'univers, en induisant une compréhension dans la perception, ça change la manière dont on vit l'expérience. Et bien ici, ce que je suggère, c'est que quand à un moment il y a conscience, c'est-à-dire qu'à un moment on se sent présent, on peut induire dans cette sensation que cette présence, cette conscience, n'est pas ma conscience, mais plus une conscience ou une présence universelle. quelque chose qui ne vient pas de moi, de mon corps ou de mon cerveau, de ma matière. Ce qui est difficile pour nous, vu qu'on a une perspective matérialiste, même sur la conscience. Beaucoup de la majorité des neuroscientifiques pensent que la conscience est un produit du cerveau, de l'activité cérébrale, même si ils n'ont pas encore trouvé la source, la zone qui crée la conscience. Ils pensent que la conscience est un produit de la matière, comme la totalité de ce qui existe d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde matérialiste. Donc pour nous, c'est assez difficile, mais on peut quand même essayer d'imaginer dans la méditation, c'est intéressant parce qu'on utilise l'imagination, mais comme très souvent en méditation, d'essayer d'imaginer ou d'envisager ce moment de conscience comme étant un moment où on est en contact avec quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. On peut le voir comme ça. De la même manière que quand Thich Nhat Hanh regarde un arbre, il voit l'univers dans l'arbre, nous, quand on voit un moment de conscience, là, dans ce moment, il y a une non-distraction, je me sens présent. Cette présence n'est pas ma présence, mais c'est la présence. Ce qui veut dire, si on le voit comme ça, qu'on peut très bien savoir que si au même moment, certains d'entre vous sont présents en même temps que moi, l'expérience est la même. C'est la même présence qui filtre à travers chacun. Comme cette image que j'aime beaucoup, qui m'était venue quand j'étais en Inde, comme la lumière qui passe à travers les vitraux d'une église. Derrière le vitrail à l'intérieur de l'église, c'est tous des motifs différents, mais c'est la même lumière qui passe à travers chacun. Et peut-être bien que cette attention qui est là, dans le moment, c'est la même attention qui filtre à travers chaque individualité et du coup prend une forme différente. Donc à chacun de... S'il y a quelque chose dans cette manière de voir qui vous parle, à ce moment-là, il faut la rendre familière. Il faut y réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire. Il faut se l'approprier intellectuellement pour pouvoir l'utiliser dans la méditation après. Comme l'impermanence. L'impermanence, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais quand même, il faut se l'approprier, il faut s'en rappeler, et puis on peut l'utiliser. Si on ne se rappelle pas ou si on ne l'a pas compris, on ne verra pas la permanence des choses. De la même manière, la conscience, rien ne nous dit que la conscience est individuel. Rien. Personne, à ce jour, 2023, n'a aucune preuve que l'attention est un produit de la matière, est un produit d'une individualité. Personne. C'est une croyance à ce stade. Pour nous, c'est une certitude non questionnée, implicite, mais, et c'est bien pour ça que c'est difficile, et c'est ça qu'on est en train de faire ici, c'est en train de reposer une question qui, si on ne se la pose pas, enfin, même pas, de poser une question, si on ne se la pose pas, elle n'apparaîtra jamais à notre esprit. Et on va toujours croire que c'est ma conscience. On s'approprie la conscience. On est toujours au géocentrisme. On est toujours à la préhistoire de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on joue à ça? Parce que ça libère. Parce que quand on s'approprie la conscience, à ce moment-là, on devient des individus complètement séparés les uns des autres. On ne voit plus l'humanité commune en chacun. On ne voit plus la même flamme, la même essence dans chacun. Et à ce moment-là, commence le mouvement de moi, 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 juste moi et tout pour moi. C'est le début de l'ego. C'est la naissance de l'ego qui nous fait souffrir et qui fait qu'on n'arrive pas à aimer, on n'arrive pas à un amour un peu plus inconditionnel que celui qu'on a pour le moment. On s'enferme dans une petite boîte dans laquelle, dans cette boîte, il y a la totalité de ce que je suis. Comme si on n'avait rien en commun. On n'est pas en contact avec ce qui est commun en chacun de nous. Et du coup, ça nous permet d'être... Ça nous empêche l'empathie, ça nous empêche de vivre avec un cœur ouvert, sans peur, d'aimer, même d'aimer, d'être en lien avec les gens avec qui on est en désaccord. Ça referme. Et c'est une croyance. Donc ici, c'est une manière de voir, je vais changer, c'est une manière de voir, de se voir comme un individu complètement séparé, c'est juste une manière de voir. Et de se voir comme un individu à un certain niveau de notre existence, on n'est pas du tout séparé, c'est la même lumière en chacun, c'est une autre manière de voir. Aucune des deux, je ne suis pas en train d'essayer de vendre une théorie qui serait un reflet de la réalité. En fait, je m'en fous de si c'est réel ou pas. Et l'un et l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle manière je peux voir cette vie qui permette de vivre avec dignité, beauté, ouvert, aimant, sans peur. C'est ça qui m'intéresse. Et ça sera quelle cartographie, quelle explication, quelle mythologie je mets en place pour pouvoir vivre une vie de toute beauté et qui ait du sens. Cette mythologie-là aura sa place. Elle n'expliquera pas ce qu'est la vie, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais elle permettra à la vie de passer à travers moi sans qu'il y ait trop de friction. Et dans un autre texte de Rumi, on trouve Dieu ne contemple le monde des six directions qu'à travers l'homme universel. L'homme universel, c'est ce que je suis en train d'essayer de décrire, c'est l'homme qui se connaît comme étant un produit de la vie et non pas un produit de lui-même. Qui est un produit de la vie, et c'est-à-dire qu'il a une racine commune avec tous les autres hommes. L'homme universel, cet homme pour qui est ouvert, qui a son cœur ouvert aux autres plutôt que d'avoir toujours son visage tourné seulement vers lui-même. C'est ça l'homme universel dans le soufisme. Et donc, Dieu ne contemple le monde des six directions qu'à travers l'homme universel. Le monde des six directions, c'est les six sens. Donc les cinq sens tactiles comme on les a chez nous, plus la cognition, donc la capacité de perception de l'esprit. C'est le sixième sens en Asie. Donc Dieu contemple le monde à travers l'homme universel, c'est-à-dire l'opposé de l'homme égocentrique. Dieu contemple le monde, il passe à travers l'homme pour voir dans les six directions. Comme un musicien qui ne joue plus pour son image, mais qui est complètement inspiré, à ce moment-là, a l'impression d'être un canal et que la musique vient à travers lui. Et c'est une sensation qu'on peut avoir, ça. Quand on comprend et quand on essaie de voir comme ça, on peut regarder la beauté comme si c'était la vie qui regardait sa création. Parce que, au final, quand on y réfléchit, vous voyez, il y a beaucoup de réflexions là-dedans, mais quand on y réfléchit, on est un produit de la vie. On n'est pas un produit de nous-mêmes, il n'y a pas un jeu qui a créé le jeu. On est un produit de la vie. Rien, mais pas la moindre pensée, la moindre envie, la moindre partie de mon corps, rien n'existe en dehors de la vie. C'est l'évolution, c'est la vie, c'est l'énergie, appelons-le, c'est Dieu, on l'appelle comme on veut, mais on est un produit de ça. Et du coup, si je l'appelle la vie, donc tout ce que je suis, c'est la vie elle-même. Et quand je regarde un beau paysage, c'est la vie qui regarde la vie. Et c'est juste. Ou, pour Rumi, ça sera l'homme universel, et du coup, c'est Dieu qui regarde sa création. Dieu est là, il regarde sa création. Et Dieu a besoin des yeux pour voir sa création. Et si les yeux ne sont pas là, parce que même s'ils sont posés sur le paysage, il y a tellement de préoccupations à propos de moi, que rien n'est vu, alors Dieu ne peut pas voir sa création. Dieu a besoin de l'homme universel pour rentrer dans le monde. Et à ce moment-là, on devient canal. On touche les cœurs, on est juste, on est à la bonne place, on trouve sa place. On est au service de la vie et plus au service juste de nous-mêmes et de ce moi, de cette espèce d'ego qui est un fantôme en fait, une création de l'esprit. Quelles sont les racines de l'ego ? Donc, il y a une grande, grande complexité dans ce qui est abordé ici. Il y a une grande complexité. Il y a une grande complexité, il y a une grande profondeur. Il y a toutes les difficultés de l'expression, du vocabulaire, du langage, de la clarté. On peut y aller doucement. Et vous pourrez le réécouter si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin avec ça. Mais pour la méditation, ne gardons aucune confusion. Au départ, ce qui est le plus important, on s'assoit et on joue avec la possibilité d'être conscient ou non. La conscience est là, la conscience s'en va, la conscience est là, la conscience s'en va. Ça, c'est ce qui va se passer dans notre expérience. Je dis ça parce qu'on va faire une méditation après. Je vais la guider. Mais Au départ, c'est juste ça. Déjà, s'ancrer peut-être dans la respiration pour être non distrait. Et sentir comment, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une enquête. C'est pas juste pour être paisible, c'est aussi une enquête. Qu'est-ce qui se passe quand on est non distrait? Qu'est-ce qu'on ressent? Et puis, si ça a un sens pour vous, à ce moment-là, on peut essayer, dans cette attention, d'ajouter une manière de voir qui est, au lieu de intuitivement ressentir cette présence comme ma présence, de la ressentir comme la présence, qui est la même en tout être vivant. C'est cette même attention qui est là en ce moment que celle qui est dans... Il s'appelle comment ton chien? La même attention qui est dans l'oustique quand il regarde la pomme de pin, c'est la même qui est là à travers moi en ce moment et qui observe ma respiration. On peut essayer d'accueillir, de ressentir et de vivre cette attention comme étant pas à moi. Ok, donc merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.